Et si l'on brisait les frontières, si on enlevait les barrières, si on redevenait amis dans notre terre d'Éburnie.
Radio de la paix, il est 12h. Journal du Midi. Marthe Cacou.
Nous sommes le mercredi 16 août 2023. Tout de suite, les faits majeurs. Cohésion sociale des autorités coutumières bénéficie d'un renforcement des capacités sur leur contribution au processus pour une réconciliation vraie et durable en Côte d'Ivoire. C'est à travers un atelier régional à Daloa, grâce à l'appui technique et financier du PNUD. Les échos dans quelques minutes. Prise au Niger, au moins 17 soldats tués avant une réunion cruciale ouest-africaine à Accra, au Ghana, demain jeudi et après-demain vendredi. De la situation au Niger, ces incidents sur plusieurs états de la sous-région et sur les pays voisins, dont la Côte d'Ivoire, il en sera question avec le président de la Coordination nationale des gares routières, Touré Adama, l'invité de la rédaction, mettra l'accent sur le calvaire que vit en ce moment le secteur du transport routier. Mais avant, Bakary Touré Labas vous proposera son dossier d'actualité portant sur l'augmentation des vols à Oudini dans les domiciles par 7 ans de plus. Voilà pour l'ossature. Bonjour à tous. La contribution des rois et chefs traditionnels au processus de paix et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire, quelle place et quel rôle? C'est le thème qui a guidé l'atelier de dissémination régionale du séminaire de renforcement de capacité des rois et chefs traditionnels. Il s'est agi de recueillir des recommandations de la part des rois et chefs traditionnels en vue d'un plaidoyer pour un rôle plus efficace et une autonomie des rois et chefs traditionnels dans la gestion des conflits et de promouvoir une paix durable en Côte d'Ivoire. Le projet bénéficie de l'appui technique et financier du PNUD. Nous apprend Jean-Noël Kouami.
Docteur Adjé Pascal, directeur des études et de la documentation à la Chambre des rois et chefs traditionnels, a mis en avant l'importance du rôle des rois et chefs traditionnels dans la gestion durable des conflits et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire.
Avec la loi organique, il y a une disposition qui dit clairement que les chefs peuvent régler les conflits, les règlements amiables, non juridictionnels. Dès l'instant où c'est inscrit dans une loi, il faut qu'on fasse des plaidoyers pour que cela s'impose dans le règlement coutumier. On ne parle pas de prison. La finalité, c'est la cohésion sociale. On cherche à concilier les parties en conflit.
Mizier Lambert, deuxième vice-président du directoire de la Chambre des rois et chefs traditionnels, livre les conclusions de ses travaux et appelle à des élections locales apaisées.
Qu'il y ait la prise des décrets d'application de la loi organique, que les bureaux de chaque comité régional soient équipés et que des dispositions budgétaires leur accordent un certain nombre de moyens. Le profil idéal du chef, il doit être rassembleur, impartial, à l'écoute de sa population. Le 2 septembre, que tous aillent voter sans empêcher qui que ce soit. Que celui qui n'a pas gagné puisse reconnaître que l'autre a gagné et faire la paix.
Ces réflexions se poursuivront à Boaké, Bondoukou et Yamoussoukro pour recueillir les avis et recommandations des rois et chefs traditionnels afin d'améliorer leurs conditions de vie et de travail et renforcer leur rôle dans la stabilité, la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Jean-Noël Kouamé, Daloa, Radio de la Paix.
Élections municipales et régionales couplées du samedi 2 septembre prochain en Côte d'Ivoire à la faveur d'une réunion de l'association des ressortissants de la région du Dengélé vivant à Boaké. Le président de la dite structure a appelé les populations à faire en sorte que ces scrutins se déroulent sans violence et cela dans la perspective d'un développement durable. Reportage signé Joseph Assali, notre correspondant dans la région de Boaké.
Les différentes organisations de Boaké mettent à profit les cérémonies qu'elles initient pour lancer des appels à la cohésion à quelques semaines de la tenue des élections municipales et régionales. C'est le cas de l'association des ressortissants de la région du Dengélé, résidant à Boaké. Doumbia Soumaïla, son président.
Sensibiliser pour que nous fassions une élection apaisée, crédible et sans violence. Après le vote, qu'ils se retirent tranquillement pour attendre le résultat. Et que quand il y a un résultat, il ne faut pas faire de violence. Il faut tendre la main à ceux qui n'ont pas gagné. Parce que c'est la commune qui gagne, c'est la région qui gagne. Parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous sommes condamnés à faire nos cérémonies ensemble. Il faut se défaire de toutes sortes de provocations. Il faut s'inscrire dans une dynamique de paix et de cohésion. Une élection apaisée, crédible et sans violence.
C'est aussi le souhait de Jacques Assaoré Kouna, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, par ailleurs cadre de la région qui appelle à l'union des communautés.
Des gens qui passent leur temps à vouloir nous diviser. Bouaké, qu'on le veuille ou non, c'est une ville cosmopolite. Chacun a sa place dans Bouaké. Tout le monde apporte sa contribution au développement du Bekè et de Bouaké. Soyons vigilants. Bouaké et le Bekè ont connu un retard. Nous ne devons pas ajouter 5 ans de plus.
Il souligne que c'est dans la paix et la cohésion que les investisseurs reviendront à Bouaké après plusieurs années de crise. Joseph Assalé, Bouaké, Radio de la Paix.
Les membres de l'ASDA 50, tonton de l'association Souvenir des années 50, se sont retrouvés le week-end écoulé à San Pedro pour une redynamisation de l'association créée pour une valorisation de la femme. L'ASDA 50 œuvre également pour la paix et la cohésion sociale, surtout en cette période électorale. Les détails avec Kofi Benson, notre correspondant dans le Bas-Sassandra.
Créée le 22 février 2009, l'ASDA 50, l'association Souvenir des années 50, a connu une période de léthargie, d'où la nécessité d'une redynamisation des activités de l'association, selon sa présidente Poliba Béatrice.
Nous relevons l'association pour motiver les femmes qui étaient tous endormies. On se lève comme avant, main dans la main, on travaille ensemble. L'association est créée pour lutter contre la pauvreté. Ça pour mettre la paix dans la population. Élection arrive, vous devez vous entendre. Ne faites pas des histoires. Le projet clé présentement que nous avons, c'est de sensibiliser la population à ne jamais mettre les ordures à terre. Sensibiliser la population à se diriger vers les hôpitaux. C'est-à-dire qu'ils sont malades. Au lieu d'aller voir le problème pour faire examen, c'est pas ça. ADA 50 fait des projets pour aider les jeunes filles. Ensemble, chacune doit avoir son petit magasin. L'habillement des filles, c'est les cuisses qui sont cachées avant. C'est ça qui fait que les hommes cherchent à faire marier d'autres pour marier la fille. Mais aujourd'hui, elles se mettent nues pour se promener. C'est pas bon.
Pour Dakouri Rachel, membre de l'ASDA 50, il est bon que les filles et les femmes adhèrent à l'association pour bénéficier des projets menant à l'autonomie financière.
Moi-même, je ne suis pas des 50, mais c'est pour nous rappeler de ce que nos parents ont fait, des biens. Donc, il faut qu'on renouvelle cela pour que les enfants sachent que vraiment il y a eu telle chose qui était passée avant. L'ASDA propose aux jeunes filles de travailler et l'ASDA les aide et les amène à être dans la société, de ne pas se prostituer mais de toujours rester digne.
Une dignité inspirée des femmes des années 50. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Lutte contre la pauvreté. 100 000 nouveaux ménages bénéficiaires des filets sociaux au titre de cette année vont recevoir leurs premières allocations trimestrielles à partir du 21 août. L'annonce a été faite lundi par la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté. C'était à l'occasion d'un point de presse de lancement de cette opération de paiement des transferts monétiques. On écoute Miss Belmonde Dogo.
Mon ministère, au titre de l'année 2023, a travaillé à l'identification des 100 000 nouveaux ménages. Ceux-ci recevront les premières allocations trimestrielles à la date du 21 août 2023. Cela portera le nombre de bénéficiaires touchés de 2017 à 2023 à 327 000 ménages. 1593 villages supplémentaires et 48 communes chefs-lieux de département ont été sélectionnés pour renforcer l'extension du programme. S'en est suivie la phase de l'enquête, de vérification du statut socio-économique des ménages. Des sessions de validation communautaire et des sessions de restitution ont permis de sélectionner les 100 000 nouveaux ménages bénéficiaires. Les 100 000 nouveaux ménages, dont 40 470 femmes et 59 530 hommes chefs de ménage, sont répartis entre les 14 régions. Ce sont Agnès-Bitiassa, le Bafing, le Cavali, le Gor, le Guémon, le Hambol, le Haut-Sassandra, la Mé, le Logibois, la Nawa, le Nzi, San Pedro, le Tonkwi et le Tchologo. Pour le milieu rural, 73 258 bénéficiaires sont concernés et pour le milieu urbain, 26 742 ménages sont pris en compte.
À l'instant, Miss Belmonde Dogo, ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté. À Yamoussoukro, un projet de cadastrage de la ville a été lancé récemment à la préfecture de région de la localité par la direction du cadastre. Ce programme pilote, qui s'exécute également dans deux autres villes, à savoir Daloa et Korogo, vise à améliorer la gouvernance foncière du cadastre. En ligne de Yamoussoukro, Émilie Aou.
Ce projet, selon le directeur du cadastre Boa Apollinaire, va renforcer la sécurité foncière et donc impacter positivement la vie des populations.
Il y a des avantages multiples que ce projet va apporter à nos populations afin de leur offrir un cadre de vie agréable à travers la bonne gouvernance foncière, l'accélération des délais de traitement des dossiers de demande d'ACD et puis également dans la consolidation des droits qu'ils ont déjà acquis et maîtrisés également pour l'administration sont ici parcellaires.
Boa Apollinaire a par conséquent exhorter l'ensemble des forces vives de la région à tout mettre en œuvre pour la réussite de ce projet.
Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire avec assurance que le cadastre est un facteur de développement. Je dirais même que là où le cadastre passe, le développement suit. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter tous à la mobilisation et à l'adhésion autour de ce projet afin qu'il soit une réussite dans votre région.
Pour les populations et notamment la chefferie traditionnelle, ce projet suscite un réel espoir eu égard aux nombreux conflits fonciers enregistrés dans la région.
Nanan Kwasi Konan, le chef du village de Kami. Le projet est vraiment salutaire. Aujourd'hui, les problèmes de terre sont très importants, surtout ici à Amsoko par rapport au transfert de la capitale. Et donc, nous saluons ce projet-là. C'est toute la population de Amsoko qui leur dit merci.
Outre la ville de Yamoussoukro, ce projet pilote de 18 mois s'exécute également dans deux autres localités que sont Korogo et Daloa. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Et puis la jeunesse de la région du Tonkoui est confrontée au problème de l'emploi. Pour répondre à cette préoccupation, le Forum économique des jeunes vient de se tenir à l'amphithéâtre de l'Université de Mont. Une tribune d'échange et de partage avec des experts et des apprenants. Les participants réfléchissent sur le thème suivant. Quelles opportunités pour la jeunesse du Tonkoui? Plus de précisions dans ce compte-rendu de Stéphane Adams.
Ce forum économique des jeunes du Tonkoui est parti d'un constat, selon l'initiateur du projet, Daniel Oulahi.
Aujourd'hui, le Tonkoui, c'est l'une des régions les plus peuplées de la Côte d'Ivoire. Ensuite, c'est l'une des régions où l'indice d'insécurité alimentaire est le plus élevé. C'est aussi l'une des zones impactées par le départ pour la migration des jeunes. Ça veut dire que de plus en plus des jeunes ne croient pas au potentiel de l'agriculture, quittant les terres, et la main-d'œuvre devient de plus en plus vieillissante. Ça nous a interpellés, briser cette dynamique-là pour permettre aux jeunes de rester sur leur territoire et être des acteurs de changement.
Par ailleurs, le conférencier Dr Guantou Robert Guéhi, directeur régional de la FAO en charge de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, a mis en lumière les atouts de la région au profit des jeunes.
On a eu des exemples ici des jeunes qui sont passés de 12 tonnes à l'hectare avec le manioc aujourd'hui en utilisant des pratiques innovantes qui font 30 tonnes à l'hectare avec le manioc au niveau du Tonkoui. Au niveau du café de montagne qui a été labellisé, le riz d'ananas qui est labellisé, nous avons l'huile rouge qui constitue des opportunités d'emploi énorme pour la jeunesse ivoirienne dans sa globalité. Alors donc, les organisateurs, les jeunes du Tonkoui et de la Côte d'Ivoire peuvent continuer à compter avec la FAO. Nous sommes ici pour les aider, nous sommes ici pour aider le gouvernement ivoirien.
Sentiment d'un participant en fin de rencontre.
C'est une grande satisfaction. Nous avons compris que l'État ne peut pas tout faire. Donc il est important pour nous, jeunes, de se prendre en charge. Et c'est dans cette dynamique-là que nous nous sommes inscrits.
À noter que la région du Tonkoui regorge d'énormes potentialités économiques. Stéphane Adams, Man, Radio de la Paix.
L'actualité hors des frontières ivoiriennes nous conduit au Niger où au moins 17 soldats ont été tués et 20 blessés hier dans une attaque terroriste présumée près de la frontière du Burkina Faso dans le sud-ouest du pays. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis le coup d'État du 26 juillet qui survient avant une réunion cruciale des chefs d'État-major ouest-africains. Rencontre devant se tenir demain jeudi et après-demain vendredi à Accra au Ghana pour évoquer les détails d'une possible intervention armée pour restaurer l'ordre constitutionnel dans ce pays. Si l'option militaire reste sur la table pour rétablir dans ses fonctions le président, renverser Mohamed Bazoum, la voie du dialogue dialogue et de la diplomatie avec le régime militaire au pouvoir à Niamey semble néanmoins privilégié, rapporte l'AFP. Et puis une quarantaine de migrants, dont un Bissau-Guinéen, ont été secourus au large du Cap-Vert à bord d'une pirogue transportant des ressortissants sénégalais, mais plusieurs autres ont péri. Le sort de dizaines d'autres est inconnu. La police capverdienne et les affaires étrangères sénégalaises rendant compte de témoignages selon lesquels il y avait une centaine d'occupants au départ du Sénégal, c'est ce qu'a indiqué le ministère sénégalais des Affaires étrangères dans un communiqué diffusé hier soir et confirmant des informations en provenance du Cap-Vert. En avions au dossier d'actualité, en cette saison des pluies, les populations des quartiers périphériques de la ville d'Odienné ne savent plus à quel saint se vouer pour la simple raison qu'il ne se passe deux semaines sans qu'elle ne soit victime de vol à domicile. Et face à cette situation, le corps préfectoral a échangé le vendredi dernier avec les chefs de communauté, les autorités sécuritaires en ligne d'Odienné, Bakary Touré Labas, notre correspondant dans le district autonome du Dengeli.
Et revoilà la saison des pluies avec son cortège d'insécurité, entre autres les agressions et vols à domicile. Kone Vassanissi, imam au quartier résidentiel sud.
Depuis un moment, on ne dort pas chez nous, quartier résidentiel. Ça commence à partir de 1h du matin jusqu'à 4h. Et ils viennent, ils rentrent, ils ramassent tout ce qu'ils veulent, ils sortent. Je voulais les poursuivre. Bon, ma mère est rentrée quelque part. Donc c'est là que j'ai eu cette blessure-là. Il y a un de mes voisins aussi. Lui aussi, il est blessé même. Ça s'est passé il y a 4 jours seulement. Ils savent que vous êtes dedans et puis ils viennent ouvrir. Quand on dit là, et c'est pas seulement les fonctionnaires.
Outre les résidences, notamment, les lieux de culte sont également visités, parmi lesquels la mosquée du quartier Texas. Rencontrer l'imam Kanté Bouakari témoigne.
Nous, imam, tu viens à 5h du matin, ils ont déjà forcé la porte.
Votre mosquée a été une fois agressée?
Oui, deux fois. Ils ont pris l'intérêt de sonorisation et ils ont pris des courants.
À la mosquée même?
À la mosquée. Dans la mosquée.
Les parents et partant les imams n'ont-ils pas une part de responsabilité dans cette situation? Quand on sait qu'à chaque arrestation, ceux-ci mettent la pression sur les forces de défense et de sécurité.
Ce que vous venez de dire, très important. Mais il faut te dire que je ne connais même pas un imam qui s'est déplacé aller défendre un voleur.
Proteste, l'imam Kone Vassanissi avant d'ajouter.
Il faut la répression parce qu'il faut ça. Si on applique la loi, tout à l'heure, vous allez voir, les choses vont se calmer.
Le même avis est partagé par Kanté Bouakari.
Il faut appliquer la loi. Il faut que la sécurité, force de l'ordre, nous aide beaucoup dans ce sens.
Très bientôt, force sera donnée à la loi, a affirmé avec vigueur Fami Kwame René, préfet de région, préfet d'Odienné.
À un moment donné, il faut que la force montre qu'elle existe vraiment. Si on doit partir d'Odienné parce que on a attrapé des gens et que des gens sont révoltés, on les a matés, je pense qu'on peut partir la tête haute. Odienné n'est pas une ville à part. Odienné fait partie de la Côte d'Ivoire.
Par ici, au vol nocturne se substitue l'incivisme routier. À chaque semaine, ces accidents de moto. Bakary Touré Labas, Odienné, Radio de la Paix.
Nous en arrivons à l'invité de la rédaction, le président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, qui évoquera dans une poignée de secondes les conséquences de la crise nigérienne sur le transport, le secteur du transport routier de Côte d'Ivoire. Et bien que ne partageant pas de frontières communes avec le Niger, Touré Adama, invité de la rédaction de Radio de la Paix, c'est un entretien mené par Soro Adams.
Bonjour, monsieur le président Touré Adama.
Bonjour, c'est Soro Adams.
Comment la crise actuelle au Niger affecte-t-elle votre secteur, le secteur du transport?
Ben, actuellement, c'est vraiment un vrai problème pour nous parce que déjà, au niveau des transports de marchandises et de personnes, c'est le statu quo. Et ça, c'est pas bon pour nos chiffres d'affaires, ni pour le matériel roulant que nous avons acquis à coût de millions, je peux dire des milliards, et à crédit. Nous devons payer des traites. Donc, actuellement, tout est à l'arrêt et ça, c'est pas bon pour notre activité de transporteur routier.
Le statu quo, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire, si on ne peut pas aller au Niger, on ne peut pas venir du Niger les cas qui ne sont pas des cas qui appartiennent à des Ivoiriens sont en Côte d'Ivoire, ne peuvent pas retourner au Niger. Le personnel roulant qui est venu avec ses véhicules dorme dans les gares routières et ils sont dans un désarroi parce qu'ils sont payés seulement lorsqu'ils voyagent avec des frais de route. C'est réciproque pour nos frères transporteurs ivoiriens qui sont allés avec leurs véhicules au Niger avec la marchandise venue dans les ports pour le Niger. Vous voyez que vraiment ce statu quo-là, actuellement, c'est pas facile, faut reconnaître, c'est pas du tout facile.
Mais avez-vous fait le point des véhicules de Côte d'Ivoire qui sont actuellement bloqués au Niger?
Oui, imaginez, nous avons des centaines de véhicules actuellement sur le territoire nigérien. Des centaines, comme je le dis. On reçoit les affaires régulièrement, on n'a pas encore fini de tout lister. Et nous allons voir dans quelle mesure vraiment nous approcher des gouvernants pour qu'il y ait au moins un couloir humanitaire pour les sortir de là. Parce que c'est des gens qui n'ont vraiment plus rien. Après avoir déposé les véhicules là-bas, déposé la marchandise, ils n'ont plus de frais de route, ils n'ont plus rien sur eux pour s'alimenter, ni pour quoi que ce soit. Et donc c'est réciproque dans les deux sens, mais nous nous évertuons pour régler le cas de nos concitoyens qui sont bloqués.
Que transportez-vous généralement de Côte d'Ivoire au Niger et du Niger en Côte d'Ivoire?
Le Niger en Côte d'Ivoire, depuis le jeudi dernier, le prix de l'oignon a grimpé. Le kilo de l'oignon qui était vendu à 300, maximum 400 francs, est passé à 1000 et quelques. 1500 le kilo, parce que l'oignon vient très souvent du Niger vers la Côte d'Ivoire. Et vice-versa, nous prenons tout ce qui est riz, engrais de la Côte d'Ivoire vers le Niger. Sans oublier le matériel roulant, quand je dis matériel roulant, c'est-à-dire les motos, les voitures, et les concessionnaires au niveau du Niger transitent très souvent par la Côte d'Ivoire. Donc ce que nous transportons entre ces deux pays, c'est vraiment au bas mot un chiffre d'affaires minimal de 2 milliards à 3 milliards par jour. C'est important.
Les transporteurs ivoiriens?
Les transporteurs ivoiriens et nigériens confondus, parce que quand on fait le fret, on fait le point sur les sorties avec les bordereaux de sortie vers ces pays. Donc c'est souvent nos camions, c'est souvent leurs camions. Donc on fait la somme de tout et on voit le flux est très important.
Et donc vous dites vous perdez par jour combien?
Le minimum c'est 2 milliards par jour.
De francs CFA?
De francs CFA. Vous voyez comment c'est important. C'est le minimum ça.
Alors monsieur le président Touré Adama, vous perdez beaucoup, vous l'avez dit, mais qu'en est-il des ports de Côte d'Ivoire et surtout du port de San Pedro?
Ben, c'est très grave. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est les deux mamelles de l'économie ivoirienne. Donc c'est sûr que le port de San Pedro actuellement, ça roule au ralenti. Ça, on ne peut pas nous dire le contraire. Parce que, quoi qu'on dise, le pays frère du Niger est un pays très commercial. Hein, donc le port de San Pedro sait aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que même le carburant passe par là, n'oublions pas, les hydrocarbures. Ils prennent du carburant nigérien, mais ils en prennent aussi en Côte d'Ivoire. Tous les véhicules neufs pratiquement, près de 70% des véhicules neufs qui sont vendus au Niger transitent par le port de San Pedro. Donc tout ça, l'un mis dans l'autre, le port de San Pedro sait aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Et ça va agir sur l'économie et les revenus de ces deux ports.
Et la situation en ce qui concerne les transporteurs, ça se dégrade un peu plus chaque jour?
Ça se dégrade un peu plus chaque jour et c'est vraiment très grave parce que la vie des acteurs qui font ces lignes-là en dépend parce que si vous vous retrouvez dans un pays où vous n'avez aucune connaissance, vous n'avez que votre véhicule et votre frais de route qui est épuisé, je ne veux pas être à la place de ceux qui sont dans ce cas d'espèce. Donc vraiment, c'est la vie humaine même qui se dégrade pour ceux qui sont allés et qui n'ont pas pu revenir à cause des fermetures.
Et qu'allez-vous faire dans ces conditions, M. Touré Adama?
Ben, nous allons continuer la négociation avec les couloirs humanitaires, sans oublier nos gouvernants, surtout la Côte d'Ivoire, le ministère qui s'occupe de la sous-région, de l'intégration africaine. Nous allons continuer à leur parler et vivement que les solutions soient trouvées.
Je vous remercie, M. le Président Touré Adama.
Merci beaucoup à la Radio de la Paix.
À l'invité du jour, le président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire se prêtait aux questions de Soro Adams. Sans plus tarder, le rappel de l'essentiel. Des autorités coutumières ont bénéficié récemment d'un renforcement de capacité sur leur contribution au processus de cohésion sociale pour une réconciliation vraie et durable. En Côte d'Ivoire, c'est à travers un atelier régional à Daloa, grâce à l'appui technique et financier du PNUD. L'objectif était de faire ressortir le rôle et les atouts des participants afin de favoriser la paix puis le développement. Merci de votre attention. Je reviens à 15h pour le flash. D'ici là, voici la revue de presse signée Francis Cassi.
Bonjour à tous. C'est par la crise nigérienne née du coup d'état militaire.